Chapitre 18. Le 16 août 2016, 11h. 19 rue de la Confrérie, avait précisé au téléphone Cesare Garcia. Derrière l'église de Calenzana, tu ne peux pas te tromper. Étrange. Au 19 rue de la Confrérie s'élevait une bâtisse à la façade délabrée, dont le crépi jauni se décollait, dévoilant des trous laissés par des briques grises mal scellées. Des encadrements de fenêtres ajourés, que des volets cloués et troués peinaient à masquer. « Ne frappe pas avant d'entrer », avait ajouté le gendarme en retraite. « Je ne t'entendrai pas. Pousse la porte et traverse la maison sans trop faire attention à mon bordel de vieil ours. Je t'attendrai dans le jardin derrière, dans la piscine. » La piscine. Clotilde s'était imaginé une villa somptueuse, un peu au-dessus du village, avec véranda, bain de soleil, parasol et transat. Un peu comme celle exposée sur les affiches accrochées partout le long de la route, qui annonçait un concert étise le lendemain soir à la discothèque, le Tropicaliste, plage de l'Ochelucha. Clotilde se reconcentra et poussa la porte, traversa deux pièces, aussi minuscules qu'encombrées, une cuisine moisie qui sentait les figatelli grillés et un salon presque entièrement occupé par un lit convertible tellement défoncé qu'il semblait ne plus jamais pouvoir être replié en mode canapé. Des rideaux déchirés volaient devant la porte du jardin, tout au bout de la pièce. Clotilde les écarta avec un peu de dégoût, comme on déchire une toile d'araignée tissée sur un meuble condamné. « Entre, Clotilde !» Clotilde baissa les yeux vers la voix qui semblait sortir d'une bouche d'égout. Le jardin était encore plus petit que la pièce qu'elle venait de quitter, barré par trois palissades et presque réduit à une dalle de béton à laquelle on accédait par trois marches. Dans le ciment était percé un trou d'un mètre de diamètre, la taille d'un puits. Et dans le puits trempait Cesareu. Seul en sortaient ses épaules de taureau, son cou épais et sa tête coiffée d'une casquette Tour de Corse 97. Sa piscine. Un hippopotame coincé dans un marigot asséché. Approche. Prends une chaise, Clotilde. Moi, je ne sors pas de mon trou d'eau avant que ce putain de soleil ne soit passé derrière les murs du jardin. Elle s'installa sur un fauteuil en plastique. Je suis comme un cachalot, continua le gendarme. Une baleine échouée. Dès que la température monte au-dessus des 25 degrés, j'ai besoin d'être hydratée, de bouger le moins possible, sinon je crève. Clotilde l'observait, incrédule. Cesareu passa son doigt sur le cercle de béton. Du sur-mesure, ma belle. Creusé pile à la dimension de mon tour de taille. Eh oui, ma jolie. Le sergent Garcia a encore pris du poids depuis la dernière fois que tu l'as vu. Elle se contenta de sourire. Oui, elle se souvenait. Bien entendu. Tout le monde dans le coin surnommait Cesare Garcia « sergent ». Jamais personne ne l'avait appelé par son véritable grade. Capitaine, lieutenant, adjudant. C'est bien que tu sois venu. Je ne sais pas.
Moi non plus, en fait.
Ça commençait bien. Cesareu ne prononça pas un mot de plus. Il semblait s'endormir doucement dans son bain. À moins que ce ne soit une vieille ruse d'éléphant de mer. La laisser venir pour ne pas devoir briser lui-même la glace. Après tout, si c'est ce qu'il attendait. Comment va votre fille, Cesareu? Ça me ferait bizarre de la revoir. Dans ma tête, Aurélia a encore 17 ans alors qu'elle doit avoir plus de 40 aujourd'hui. Pile 2 ans de plus que moi.
Elle va bien, Clotilde. Elle va bien.
Elle est mariée, tu sais, depuis des années. Mariée? Quel type avait bien pu accepter de partager sa vie avec cette rabat-joie? Depuis des années? Le pauvre gars. Elle a des enfants? Le cachalot aspergea sa face rougie.
Non. Désolée. Tu peux l'être. Ça me fait vraiment chier de ne pas être grand-père.
Cesareo se redressa un peu. La ligne de flottaison s'abaissa au niveau de ses tétons. Clotilde imagina qu'il était assis au fond du puits sur une sorte d'escabeau et qu'il avait fait grimper ses fesses d'une marche.
Alors, Cesareo, c'est quoi votre grand secret ?
Cesareo observa longuement le jardin de poche, les palissades, la porte ouverte de la maison et les rideaux volants, comme si la DST y avait installé des micros.
Tu sais, ma jolie, parce que tu es sacrément jolie, Clotilde, je pense que je ne suis pas le premier à te le dire depuis ton retour sur l'île. Tu l'étais déjà à l'époque, remarque, mais tu ne le savais pas encore. Le charme d'une fille, c'est comme le bonheur, les miracles, les gris-gris et toutes ces autres conneries. Suffit d'y croire pour que ça marche, d'y croire vraiment, d'y croire connement, comme les fakirs qui marchent sur le feu sans se brûler, si tu vois ce que je veux dire.
Clotilde ne chercha même pas à dissimuler son agacement. Elle secoua la main comme pour chasser une mouche invisible, se leva et tourna autour du trou, se positionnant dans le dos du sergent.
« Pourquoi m'avez-vous fait venir, Cesareo ?»
Le gendarme, coincé dans son tub, ne pouvait plus qu'entendre Clotilde et deviner son ombre fine, suffisante pour éteindre les étoiles scintillant à la surface du puits. Il tenta de se contorsionner, puis y renonça.
« Tu te souviens, Clotilde, c'est moi qui étais chargée de l'enquête à l'époque. » Moi seul. Il y avait une sacrée pression, tu peux me croire. 3 morts en plein été. Même si les Corses conduisent comme des dingues, c'est rare. Très rare. Sans oublier que ton papa n'était pas n'importe qui. Le fils de Cassanou Idrissi. Je ne sais pas si tu te rends compte. À l'époque, Cassanou possédait la moitié de la commune et... Les communes de Corse, tu sais ce qu'on dit. Elles sont plus grandes que les cantons du continent. Elles vont de la ligne de crête à la ligne d'horizon. On peut y faire du ski alpin l'hiver et du ski nautique l'été.
Clotilde le coupa, cassante. C'était un accident, non ?
Oui, un accident, bien entendu. Un accident et tout le monde est content.
D'un coup, le sergent se leva. Son corps obèse éclaboussa le ciment alors qu'il remontait à l'aide d'une échelle scellée à la paroi du puits dont le niveau avait baissé brusquement, semblant presque à sec. Un minuscule slip rouge disparaissait sous les plis de son ventre comme s'il portait un string à l'envers, le cache-sexe sur ses fesses et une ficelle pour le reste. Sans même se sécher, il entra dans la maison, grogna tout en semblant déplacer les meubles.
« Où est-ce qu'Aurélia a encore rangé ce foutu dossier ?»
Puis, on ressortit quelques secondes plus tard, un peignoir ouvert sur les épaules et une chemise cartonnée dans la main. Il prit une chaise de plastique qu'il tira vers l'ombre de la palissade et tendit le dossier à Clotilde.
« Ouvre !»
Clotilde posa la chemise sur ses genoux, l'ouvrit, tourna la première page. Un nom, une immatriculation. Une date de naissance. Fuego, modèle GTS, 1233 CD 27. Mise en circulation le 3 novembre 1984. Des photos de la carcasse d'une voiture, en couleur. Un toit éventré, des pneus carbonisés, gros plans sur des éclats de verre. Clotilde retint un haut-le-cœur.
« Continue, Clotilde. Continue avant que je t'explique. »
Plusieurs pages encore. Des rochers rouges, 3 cadavres étendus sur les rochers. Du sang partout. Une autre page. Un nom. Paul Idrissi, né le 17 octobre 1945, décédé le 23 août 1989. Une dizaine de photos. Des détails des clichés précédents. Des agrandissements, un visage tuméfié, un bras tordu en équerre, un torse dissymétrique,
un cœur écrasé dans un étau. Une autre page. Nicolas Idrissi, né le 8 avril 1971, mort le 23 août. Clotilde ne put en lire davantage. Elle bloqua d'abord la remontée de bile dans sa gorge, tenta de baisser à nouveau les yeux vers le dossier, puis, brusquement, se précipita vers la piscine circulaire, s'agenouilla et vida ses tripes. Cesareo lui tendit un mouchoir en papier. « Désolée, » s'excusa Clotilde.
« Tu peux. Ils annoncent 37 degrés aujourd'hui. Et le service d'entretien de ma piscine est en vacances jusqu'au 21 août. »
Le regard de Clotilde se posa sur l'épuisette à feuilles adossée à la palissade. Le sergent la retint par l'épaule.
« Laisse tomber, Clotilde, je déconne. Je m'en fous. C'est de ma faute. Mais je voulais que tu ailles au bout. Jusqu'à...
jusqu'aux photos de maman ?» Cesareo hocha la tête. Toujours agenouillée, Clotilde leva vers le gendarme un regard de Marie-Madeleine, contemplant le Christ ressuscité.
« Maman n'est pas morte, c'est ça ?»
Elle l'avait deviné. C'était évident. Les indices étaient tellement évidents, convergents. Cette lettre explicite qui évoquait la chambre noire, la serpillière d'Orsou, le labrador baptisé Pacha. Autant de mystères qui ne pouvaient s'expliquer que par la présence de sa mère, ici, vivante. Cesareo Garcia connaissait la clé pour résoudre l'équation impossible. Comment Palma Idrissi avait-elle pu survivre à l'accident ?
« Ma mère n'est pas morte !» répéta-t-elle.
Cesareo la regarda comme si elle avait blasphémé.
« Qu'est-ce que tu racontes, Clotilde ?»
Il avait l'air sincèrement navré.
« Ne va surtout pas te mettre ça en tête, ma pauvre. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ta mère est décédée dans le ravin de la Petra Coda, avec ton père et ton frère.
Tu les as vus mourir sous tes yeux.
J'ai vu leurs cadavres, moi aussi. La pire expérience de ma vie, comme des dizaines d'autres témoins.
Non,
bien entendu, ce n'est pas pour t'annoncer que ta mère est revenue d'entre les morts que je t'ai fait venir. »
Clotilde serra les lèvres pour ne pas craquer, ne pas pleurer. Articuler.
Alors ? Observe la page suivante, après les photos.
Clotilde reprit le dossier, sauta la page de Nicolas, mais eut la force de regarder celle de sa mère. Six clichés de son corps déchiqueté, six agrandissements de la photo de son cadavre, comme écartelés, avant de tourner la feuille. La tôle froissée remplaça la chair broyée. Elle découvrit des photos de la Fuego. Entière d'abord, puis les clichés fouillaient l'intimité de la carcasse, du moteur, de l'habitacle. Clotilde observa sans comprendre des gros plans d'une courroie de transmission, d'un arbre à cam, d'une barre de direction, d'un triangle de suspension, d'un câble de frein. Du moins, est-ce ce qu'elle supposait? Elle n'avait dû ouvrir un capot qu'une fois dans sa vie, en plein hiver, pour nettoyer des bougies encrassées, et ce jour-là, elle s'était épatée elle-même à se repérer presque d'instinct dans cette immense casse-tête d'acier. Elle délaissa le dossier pour se tourner vers le gendarme. Ses yeux se trouvaient à la hauteur exacte de son ventre. Clotilde eut l'impression que le corps du sergent continuait de fondre au soleil, de dégouliner, qu'il ne mentait pas et que s'il restait trop longtemps hors de son trou d'eau, il se transformerait en une mare de chair gélatineuse et visqueuse. Le dégoût, un immense dégoût, bouillonnait à nouveau dans son estomac. Elle hurla presque.
« Nom de Dieu, où voulez-vous en venir ?»«
Cette dernière page, Clotilde, ces dernières photos, elles ne sont pas officielles. » Si tu vérifies la date, tu verras qu'elles ont été prises quelques semaines après l'accident, alors que l'enquête était officiellement close. J'ai attendu que tout se calme pour demander à un copain d'examiner ce qui restait de la Fuego. En toute discrétion. Ibrahim tient un garage à Calenzana. On se connaît depuis l'enfance. C'est un type clean, même s'il n'est pas assermenté par le juge.
Pourquoi avoir attendu tout ce temps ?
Il sourit.
Je t'ai dit, il y avait une sacrée pression, Clotilde. Le fils, le petit-fils, la bru de Cassano Idrissi. Je ne sais pas si tu te rends compte. C'était remonté jusqu'au député Pasquini et au président Rocca Serra. Alors on s'est contenté de confier l'affaire à un pauvre type chargé de bâcler l'enquête. Moi, le sergent Garcia. Une enquête dont le dernier mot était déjà écrit. Accident.
Clotilde tentait de repousser les images de la Fuego qui éventrait la barrière, plongeait dans le vide, rebondissait trois fois, tuait trois fois. Un accident, bien entendu. Où ce flic obèse voulait-il en venir?
Regarde la troisième photo, Clotilde. C'est la crémaillère de direction. Et, aux extrémités, les biellettes de direction et les rotules.
Elle ne voyait rien d'autre qu'une tige de fer, une pièce de métal conique et un gros écrou.
C'est l'une des rotules qui a lâché. D'un coup, au moment où ton père a voulu braquer. Juste avant le ravin de la Petracoda.
Son père n'avait pas tourné. Elle revoyait encore la Fuego lancée comme une balle. Ce n'était pas un suicide, seulement la direction qui avait lâché. Sa voix se radoucit.
Donc, c'était un accident?
Oui, comme je te l'ai dit, c'est dans le rapport officiel, juste avant le mot « fin ». Une rotule de direction a sauté. La seule coupable, c'est la bagnole. Sauf que, d'après mon pote Ibrahim...
Des gouttes épaisses perlaient de son bide. Pas de sueur, de graisse.
Sauf que, d'après mon pote, répéta-t-il, la défaillance de la rotule n'était, comment te dire, pas naturelle.
Pas naturelle?
Il se pencha vers elle, le ventre posé comme un tablier sur ses genoux.
Je vais être plus précis, Clotilde. J'y ai repensé des centaines de fois depuis. J'en ai discuté avec Ibrahim. J'ai détaillé les clichés et les pièces à conviction. Et à force, ma conviction s'est forgée.
Accoucher, merde!
La direction a été sabotée, Clotilde. L'écrou de la rotule a été dévissé. Juste assez pour être certain qu'avec les vibrations, elle sauterait, au bout de quelques virages. Que la biellette de direction tomberait d'un coup. Et que le conducteur se retrouverait avec un volant tournant dans le vide et un véhicule brusquement incontrôlable.
Clotilde demeura silencieuse. Doucement, elle se leva puis posa ses fesses sur le ciment mouillé. Les bras autour des genoux, recroquevillés, prostrés. Cette fois, c'est l'ombre du pachyderme qui vola le soleil de Clotilde. Il s'était lui aussi levé.
Je devais te le dire, Clotilde.
Elle avait froid, elle tremblait. Le puits l'attirait. Pourvu qu'il n'ait pas de fond, qu'elle puisse couler pour l'éternité.
Merci, Cesario.
Elle laissa passer un long silence avant de prononcer un autre mot.
Qui d'autre est au courant?
Une seule personne. La seule qui devait savoir. Ton grand-père, Clotilde. J'ai donné une copie de tout le dossier à Cassano Idrissi.
Elle se mordit les lèvres, au sang.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Rien, Clotilde. Rien du tout. Il n'a eu aucune réaction. Comme s'il l'avait toujours su. C'est ce que j'ai pensé alors, qu'il l'avait toujours su.
Le sergent n'ajouta rien d'autre. Il mit un temps infini à fermer son peignoir, observa la surface souillée de sa piscine, puis, plus lentement encore, se dirigea vers l'épuisette rangée contre la palissade. Il se tourna une dernière fois vers Clotilde.
Passe voir Aurélia, ça lui fera plaisir.
Passer voir cette garce, quelle idée.
Elle n'est pas loin, tu dois te souvenir du chemin. Elle habite la Punta Rossa, sous le phare de la Revelata.
Les mots se mélangeaient, pris dans un tourbillon. Le puits était une marmite où Cesario les avait jetés. cette garce d'Aurelia, la Punta Rossa, le phare de la Revelata. Cesareo souleva sa casquette comme pour mieux planter ses yeux dans ceux de Clotilde.
Je m'attendais à ce que tu sois surprise, ma belle.
Moi aussi, on me l'aurait dit il y a 27 ans, je ne l'aurais pas cru.
Mais oui, Aurelia habite là-bas. Depuis tout ce temps.
Tu sais ce que ça signifie, ma jolie. Pas besoin de te faire un dessin.
Il laissa tout de même le temps à Clotilde de régler la mire de ses souvenirs.
Aurelia vit avec Natale.
Clotilde tanga au-dessus de la piscine de béton. Elle venait de tomber dans ce puits sans fond pour la seconde fois en moins de quelques minutes. Et cette seconde fois l'asphyxiait encore plus que la première. Plus douloureuse. Ô combien plus douloureuse.